étudié ensemble
notre premier cours des 12 leçons.
Bon, aujourd'hui, nous allons voir l'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. Ça vous dit quoi, ce titre-là? L'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. Qu'est-ce que ça vous dit, là? Quand je fais beaucoup l'évangélisation, et que, quand on présente pour la première fois à quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup, des fois, sa Bible, OK, ou qu'il va dans des églises longtemps, puis ils n'ont pas lu beaucoup sa Bible, mais ils sont croyants. Ou des fois, ils ne sont pas croyants. Je leur dis que ça, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, mais c'est l'histoire du salut. C'est l'histoire de la rédemption. Okay? Tout ça qui est écrit, c'est l'histoire du salut. Dieu vient appeler, vient chercher, vient sauver l'homme de quoi? Du péché. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est aujourd'hui, non pas aujourd'hui, mais on va commencer aujourd'hui, mais on va continuer avec l'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire, dans cette histoire-là du salut. Et en théologie, on appelle des fois la théologie systématique. On étudie des thèmes systématiques, des systèmes. On étudie la foi, les doctrines essentielles. Il y a beaucoup de livres qui parlent de la théologie systématique. OK? Oui, on va toucher une partie, mais c'est plutôt la théologie biblique qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire, la théologie biblique, c'est l'étude de la parole de Dieu au cours de l'histoire. La révélation progressive, dans sa parole. Vous pensez que c'est progressif? Oui. Hein? OK? Nous comprenons des choses du Saint-Esprit. Pourquoi? Maintenant, peut-être les gens ici, là, dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas une compréhension, mettons, de la Trinité, OK, dans l'Ancien Testament. C'était pas clair, OK, mais est-ce que c'était là ou non? C'était déjà là, OK, mais peut-être pour eux, c'était pas clair, même pour ceux qui ont écrit, même des fois, OK? C'est sûr que c'est le Saint-Esprit qui a dirigé l'écriture, la rédaction de la parole de Dieu. Mais les gens qui écrivaient des fois, bon, est-ce qu'ils comprenaient tout dans son ensemble? Peut-être pas. Mais nous pouvons dire, nous pouvons étudier les différentes doctrines, OK? C'est parce que nous avons toute la révélation. Et ça veut dire qu'on comprend tout? C'est vrai, on ne comprend pas tout, là. Parce que qui peut comprendre la pensée de Dieu? Mais Dieu nous a laissé quand même sa révélation. Il a laissé... Qu'est-ce qu'il dit Deutéronome 49, je crois? Il a révélé à quelques-uns, pas à tous, là. OK? Et pas de... Juste qu'on puisse comprendre tout ce qu'on peut comprendre de sa révélation. Il nous a révélé par sa parole. Mais il y a des choses qui appartiennent à Dieu. On ne comprendra jamais. Quand on étudie la Trinité, même le Saint-Esprit qu'on va étudier au cours de ce cours, il y a des choses là qui nous dépassent, OK? Mais on l'accepte pourquoi? De un, parce qu'on est croyant. On croit en Dieu, puis on a une confiance en sa parole. On croit par la foi, parce que c'est la parole de Dieu, OK? Et parce que c'est écrit là. OK, on croit à ça, même si c'est difficile de comprendre, c'est écrit là. Donc, on va étudier dans ces 12 leçons, OK, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. Donc, on va parcourir la parole de Dieu. On va pas étudier tous les livres, OK, mais on va citer plusieurs livres, même du début jusqu'à l'Apocalypse, OK. Qu'est-ce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans toute l'histoire? Okay. Est-ce que c'est la même chose dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, l'œuvre du Saint-Esprit? Est-ce que c'est la même chose? Je ne crois pas, non. Est-ce que c'est le même esprit? Bien sûr, il était déjà là à la création, mais l'œuvre du Saint-Esprit, son rôle, on parle du rôle du Saint-Esprit, okay, est différent, okay, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. OK, donc c'est sûr, qu'est-ce qu'il y a de différence dans le Nouveau Testament? Ben, c'est la Nouvelle Alliance, c'est pour ça que ça s'appelle le Nouveau Testament. C'est la Nouvelle Alliance, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Donc, c'est là, il y a un rôle différent à jouer dans la Nouvelle Alliance, hein, qui a inauguré qui? notre Seigneur Jésus. On célébrait il n'y a pas longtemps le repas du Seigneur, puis on voit que c'est là qu'il dit, ça c'est le signe de la nouvelle alliance. C'est vraiment son sang qui est versé pour son sacrifice. Donc on va étudier ça, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. Est-ce que c'est une belle histoire? Oui, c'est une belle histoire. Est-ce que ça finit bien cette histoire? Oui, bien sûr, ça finit bien cette histoire-là. C'est l'histoire du salut, c'est l'histoire comment Dieu vient nous sauver. Il est venu me sauver en 90. Oui, l'année 4, ça fait longtemps, là. J'ai combien d'années, là, déjà? 90? 30? 35, quand je suis un jeune homme, là, dans la foi. Donc, et à vous, il est venu vous chercher dans différentes époques, différentes façons. Vous êtes né même dans un foyer chrétien, ok, mais pas parce que vous êtes né dans un foyer chrétien que vous êtes. À un moment donné, un jour dans votre vie, vous avez compris le message de l'Évangile et vous avez donné votre vie à Jésus. C'est ce qu'on va voir en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. Donc on va voir un peu le but de ce cours-là. Est-ce que c'est vrai, mes frères et sœurs, c'est vrai que c'est très théologique, ok, mais nous sommes tous des théologiens, c'est vrai? Pourquoi nous sommes des théologiens, des théologiennes? Pourquoi? Ça se dit théologienne? Pourquoi? Parce que nous étudions tout ce qui concerne Dieu. Ça, c'est la théologie, l'étude sur Dieu. Donc, on est tous des théologiens. Mais, des fois, on fait la différence. Ça, c'est un grand théologien. C'est ceux qui écrivent des livres, donnent des cours dans les séminaires. C'est vrai, ok? Mais vous allez voir peut-être que ce cours, le titre, ça a l'air un peu très théologique, là. Mais on va en tirer des enseignements pratiques aussi pour notre vie. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi c'est important d'étudier cette doctrine, là? Qui concerne le rôle du Saint-Esprit. C'est bon qu'on puisse savoir ça. Vous savez, Paul il dit que dans les prochains jours, il y aura des faux docteurs. Ils vont enseigner des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la parole pour apprendre ce qui est essentiel. Ok, je crois que en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est essentiel pour nous tous. Ça va nous aider à grandir dans notre foi. En faisant ce cours-là, je suis en train de lire beaucoup et lire la Bible, lire aussi des commentaires, parce que oui, c'est vrai, les commentaires c'est très bon, les livres sont très bons, mais il faut toujours voir si c'est ce que la parole de Dieu dit. On fait confiance à des bons théologiens que nous connaissons. Donc on étudie ça. Donc dans le but de ce cours. Et nous allons découvrir l'œuvre du Saint-Esprit à travers toute l'histoire du salut, j'ai déjà mentionné, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est ça? Est-ce que vous lisez bien ceux qui sont en arrière, mettons ceux qui n'a pas de lunettes? Sam, tu vas bien là? Je vais essayer peut-être de grossir un peu Pierre, tu vois, vous voyez? Ah oui? Waouh! Donc c'est moi l'aveugle ici. Donc, je trouve que c'est petit, mais ok, c'est correct, tant mieux. Un petit peu plus grand, merci mon frère Adrien. Donc, mais, par contre, je sais que j'ai l'air un peu peut-être très... Mes parents, mes enfants, ils disent ça, là, toi, t'es... Ok, des fois, les gens, ils pensent que... Mais n'ayez pas peur, vous pouvez vous approcher ici, là. Il y a de la place, ok? Vous pouvez vous approcher ici. Et après, vous savez, là, après, quand le culte va commencer, vous allez prendre vos places habituelles, mais... Et rapprochez-vous ici là pour bien voir, bien entendre aussi. C'est bon, je vous invite à le faire. OK, puis allez-y, avec toute confiance. Donc ça c'est un début. Deuxième, c'est nous allons voir comment l'Esprit agit, aussi bien dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle, en suivant le dessein, le plan de Dieu révélé dans l'Écriture, dans sa parole. OK? Donc, quand on dit dans le cours, nous allons l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'histoire du salut, vous savez, j'ai mentionné la semaine passée, dans Genèse 1-2, il dit, « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » On parle de quoi, là, dans Genèse 1? début de toutes choses, quand la création, il était là, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et dans l'Apocalypse, comme j'avais mentionné la semaine passée aussi, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Ça, c'est l'Apocalypse 22, 17. C'est le dernier chapitre de la Bible. Donc, vous voyez là, l'Esprit était là. OK? Du début jusqu'à la fin. Ce qu'on va essayer de voir. Mais, comme je dis aussi, et nous allons voir comment l'Esprit agit, que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on va parcourir un peu les prophètes qui ont annoncé dans Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il dit? Je mettrai mon esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions. Donc l'Esprit Saint, qu'on appelle maintenant, est annoncé déjà. Il va avoir un rôle dans l'histoire du salut, dans la nouvelle alliance. Et on voit cet accomplissement dans Actes. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous voyez là, ça s'accomplit ce que les prophètes ont dit. Nous allons aussi, ce parcours nous aidera à mieux comprendre l'unité de la Bible et la place centrale du Saint-Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, il dit. Et là où il est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est central, l'étude du Saint-Esprit dans nos vies. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile, de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, même Paul dit dans Éphésiens. OK, donc c'est un peu les trois buts de ce cours-là. OK, puis on va faire tout ça ensemble. On va étudier tous ensemble. Le plan du cours, donc, nous verrons d'abord. OK, la semaine prochaine, on va commencer avec... Aujourd'hui, c'est vraiment une introduction en ce qui concerne le Saint-Esprit. Mais de la semaine prochaine, on va voir comment l'Esprit se manifeste et agit dans l'Ancien Testament. Okay, comment il se manifeste dans l'Ancien Testament. Avez-vous des idées comment l'Esprit se manifeste dans l'Ancien Testament? On l'a déjà vu, le premier, c'est quoi? Il était au début, c'est-à-dire dans la création. Et l'Esprit est quoi? Est annoncé aussi pour la nouvelle alliance. Mais on va voir d'autres sujets, d'autres aspects. Nous allons découvrir ensuite de quelle manière le Nouveau Testament révèle pleinement l'œuvre du Saint-Esprit. Okay? Ça, c'est la deuxième partie de notre étude. On va le faire en trois phases. Et à la fin, c'est sûr, nous prendrons du recul de ce qu'on a vu, okay? Tirer une synthèse, un résumé biblique et théologique sur la place de l'Esprit dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu. Est-ce que ça vous va? Vous n'avez pas le choix. Mais en tout cas, mais c'est sûr que pendant notre étude, on va voir d'autres choses que peut-être à la fin, on va le rajouter parce que nous avons tiré des enseignements par rapport à ça. OK? Donc, c'est pas coulé sur le ciment, comme on dit en bon québécois. OK? Mais c'est les trois choses que le plan du cours qu'on veut vraiment, c'est vraiment un survol, une synthèse de ce que nous allons voir en ce qui concerne cette étude. C'est bon? Donc, regardons avant. C'est bon, moi on aime voir vraiment quand on lit la Bible. C'est sûr que nous avons la traduction en français. Et Dieu vraiment a dirigé vraiment ces hommes-là de Dieu qui ont traduit de l'original de l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Dieu a vraiment dirigé ces hommes-là. Okay? Non seulement les hommes qui ont fait les copies là, de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais non seulement eux, les gens qui ont traduit en nos langues, en français, c'est une très bonne traduction. Et ce qu'on a, nous avons, la Louis Seconde 78, La Colombe, que nous avons dernièrement, c'est une très bonne traduction. Et c'est des traductions qui ne sont pas des traductions qui viennent. On a pris la Bible en anglais, puis on l'a traduit. Okay? De l'anglais au français, non. Ou on l'a pris en quelle langue a été écrite la Bible tout près de la... Oui, en araméen, je ne sais pas. Il y a des expressions en araméen, mais il y a aussi en latin. Hein? Les catholiques, j'étais catholique, là. Des fois, j'ai entendu, des fois, que le prêtre, il parlait en quoi? En latin. Proche de l'espagnol. On prenait presque, on ne comprenait pas, on comprenait pas beaucoup de choses, là. Mais c'était en latin. Mais on n'a pas pris la Bible en latin puis on l'a traduit en français. Non. Ils ont fait ce travail-là, ils ont vraiment pris les originaux, l'hébreu directement à la langue française. Et nous avons une très bonne traduction en français, collée des écritures, vraiment, du texte. OK? Et en espagnol, nous avons une bonne traduction. La Reina Valera 1960. Et j'imagine qu'en anglais, il y a des très bonnes traductions. Okay, donc, mais c'est ce qu'on va voir. Et dans la Bible, c'est sûr que ça a été écrit dans deux langues principales. Et on va voir le terme esprit dans la Bible. Et en hébreu, c'est le terme roi. Et en grec, c'est difficile à prononcer. Pneuma, c'est ça? Ça donne un peu le souffle, ok? Et signifie à la fois souffle, vent, esprit. C'est la signification. C'est pour ça que le pneu, ça vient peut-être de cette racine-là, okay, le souffle. Et en hébreu, ça veut dire la même chose. Ça fait référence à ça, au vent, au souffle, au esprit. C'est pour ça que la doctrine du Saint-Esprit, on la nomme la pneumatologie. Un peu difficile, là, comme la théologie, la pneumatologie. Mais on n'est pas en train d'étudier, on va voir quelques aspects de ça, de cette doctrine-là. Mais c'est ça le mot qu'on voit dans la Bible. Donc, vu que ce mot est utilisé, OK, pour dire souffle, vent, donc comment faire pour dire, est-ce qu'il est en train de parler d'un souffle, il est en train de parler du vent, parce que c'est le même mot, hein, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Comment il fait pour parler vraiment, il est en train de parler du Saint-Esprit. Donc, le contexte vraiment détermine, OK. S'il s'agit simplement d'un souffle, c'est-à-dire en vent, de l'esprit humain même, ou bien de l'esprit de Dieu. OK? C'est vraiment le contexte. J'étais en train de voir, il y a des langues qui ont beaucoup de richesses. Mettons, mais pas l'espagnol, mettons le français. Je ne vais pas mettre l'espagnol au début, là. En deuxième, OK? Cette fois-ci. Mettons, le français, on utilise beaucoup les majuscules pour dire que c'est beaucoup d'importance, c'est un titre. Dans nos Bibles, quand on voit l'Esprit de Dieu, c'est écrit en majuscule, OK? L'Esprit de Dieu, ou quand il parle de l'Esprit, parce qu'ils traduisent l'Ancien Testament en disant c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Et quand c'est l'Esprit, ou un esprit, les esprits impurs, on voit dans la Bible, c'est le même mot. Mais il est écrit en minuscule. Donc, la langue originale, ça dépendait vraiment du contexte, de quoi il est en train de parler. Un bon exemple, mettons, c'est le psaume 51, versets 12, 14 et 19. Quelqu'un qui pourrait lire le psaume 51, versets 12, 14 et 19. De quoi il est en train de parler, ce psaume? Là, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de bons théologiens et théologiennes ici. Vous rappelez de quoi il parle? Pour ceux qui connaissent le psaume 51, c'est vraiment lorsque David confesse son péché à Dieu, non? Qui pourrait lire, le verset 12? Qu'est-ce qu'il dit? Renouvelle en moi un esprit bien disposé. De quel esprit est en train de parler, lui? De l'esprit de David. Et ma sœur, vous voulez le 14? Un esprit de bonne volonté. Là, il est en train de dire quelque chose de bonne volonté, une action, un vouloir de psalmiste. Là, il parle de mon esprit, mais là, il dit un esprit de bonne volonté, c'est-à-dire une bonne attitude, mettons, si on veut dire. Mais il utilise, dans ces deux cas, il utilise le même mot. Et le même mot est roi en hébreu. Le verset 19, le sacrifice agréable à Dieu, c'est un quoi? Un esprit brisé. Wow! Un esprit brisé. Un jour, en parlant avec mon fils, et j'étais en train de l'encourager et l'exhorter fortement. Ça vous arrive d'exhorter fortement vos enfants? Il y en a qui rient ici. Oui, c'est vrai, ça arrive souvent même. OK? Et puis, je disais à mon fils, je prie pour que Dieu te brise, là, vraiment. Il brise ton cœur, brise ton esprit, là. Puis, il te parle, OK? Puis là, il a mal pris ça. Il m'a dit, mais tu désires le mal en moi. Tu es en train de désirer quelque chose. Pourquoi? J'ai dit, mais parce que tu dis qu'il me brise. Non, mais c'est dans le bon sens. Quand Dieu brise notre cœur, on s'humilie devant lui. Ce n'est pas une mauvaise chose que je suis en train de... J'aimerais que tu pries pour moi aussi, ça. Que Dieu brise mon cœur, des fois, pour mon cœur qui est dur, des fois. Donc là, il est en train de parler vraiment de l'esprit, son esprit, c'est-à-dire de David. Mais qui veut lire le verset 13 de ce même chapitre? Ne me rejette pas de ta face, ne m'enlève pas ton esprit saint. De quoi il parle là maintenant? Du Saint-Esprit, là, l'Esprit de Dieu. Et vous voyez, il utilise le même mot, mais c'est le contexte, okay, qui donne vraiment la signification du mot esprit dans ce. Puis on va le voir dans plusieurs, même dans le Nouveau Testament, on va voir plusieurs fois celle-là. C'est important de connaître, je crois, la signification. C'est important de voir le mot qui sont utilisés. Et encore là, je répète, mes frères et sœurs, on étudie ça, ok, ce n'est pas pour nous remplir des connaissances ou intellectuelles, non. C'est pour que ça serve à nous rappeler qu'est-ce que la parole dit de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Et ça nous aide vraiment à le mettre, et à prendre ça. Et qu'est-ce que ça va nous, en quoi ça nous aide? Waouh! À admirer beaucoup plus Dieu, à aimer beaucoup plus Dieu, connaître Dieu davantage, son plan, sa grandeur même. Chose qu'on comprend pas, mais sont vraiment claires dans sa parole. Il y a un passage qui parle il y a un Éphésiens 4, 4 à 6. Qu'est-ce qui ça revient beaucoup dans ce passage? Qui revient beaucoup? Un seul quoi? Un seul esprit? Un seul Seigneur? Il fait référence à qui? À Jésus. Selon le contexte, il fait référence au Seigneur. Seigneur, Jésus est appelé Seigneur dans le Nouveau Testament. Un seul esprit? Un seul Seigneur? Un seul Dieu? Et dans le Nouveau Testament, on fait vraiment pas la différence, mais on fait plus emphase sur Dieu le Père. OK? Donc, qu'est-ce que ça nous... Vous connaissez ça, là? C'est quoi, là, cette doctrine-là? C'est la Trinité. D'ailleurs, Trinité n'est pas un mot qui est écrit dans la Bible. C'est un mot qu'on utilise juste pour parler de la Trinité, le un seul Dieu, en trois personnes. Donc, le Saint-Esprit est reconnu dans les Écritures comme la troisième personne de la Trinité. Voilà. Donc, il est pleinement Dieu. Qui ça? Le Saint-Esprit. Distinct du Père et du Fils, conformément au témoignage biblique, à ce que la Bible dit. Qu'est-ce que c'est le Père, le Fils et l'Esprit dans une unité, un seul vrai Dieu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Démontrer exactement qu'est-ce que ça veut? Non. Mais est-ce que c'est vrai dans la Bible? Est-ce que c'est clair dans la Bible? Oui. Donc, c'est là qu'on parlait tantôt. Là. Donc, il y a un autre verset encore, là, encore plus clair, pas plus clair, mais qui évoque cette. La Trinité, qu'est-ce qu'il dit là? Allez, c'est un verset très connu. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK? Donc, trois énoncés sur la définition de la Trinité. C'est un rappel, cela. Hein? On est en train de voir un peu la théologie de la Trinité, l'étude qui parle de la Trinité, mais c'est juste un survol qu'on va voir. OK? Pour vraiment entrer dans notre étude, parce qu'il concerne, si on connaît toutes ces choses-là, quand on va parler du rôle de l'Esprit, on va savoir de quoi on est en train de parler. Donc, ces trois énoncés de la Trinité, c'est quoi? Un seul Dieu, c'est vrai, en trois personnes distinctes, Père, Fils, Saint-Esprit. Je n'ai pas dit en trois personnes différentes, hein? J'ai dit en trois personnes distinctes. OK? Donc, chaque personne étant pleinement Dieu. C'est vrai ça? Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu lui-même. OK? Donc, mais il faut parler des personnes de la Trinité, mais des fois, on se mélange avec ce terme-là. Quand on dit Jésus et le Saint-Esprit et Dieu, c'est la même personne. OK? Peut-être. On ne peut pas utiliser peut-être dans ce sens-là, c'est la même personne. On peut peut-être dire c'est de la même essence. ok, la même nature, ok, un seul et un même Dieu, on peut dire, ok, chaque personne. Et chaque personne est distincte. Quand on dit que chaque personne de la Trinité est distincte, cela ne veut pas dire qu'elles sont différentes ou séparées, mais qu'elles existent chacune à part entière, ok, c'est-à-dire sans être confondues. Chaque personne de la Trinité est capable de penser, de ressentir, d'agir. Vous voyez ça dans les Écritures? Oui, mais on va le voir aussi, on va étudier. Et chaque personne a des sentiments. Le Saint-Esprit, oui, il y a des sentiments. C'est un esprit, c'est l'Esprit de Dieu, mais il y a des sentiments, des désirs. Il y a une volonté aussi. Et est en relation avec les deux autres et avec la création. Jean, là, c'est un des évangiles qui nous enseigne beaucoup en ce qui concerne la Trinité, si on peut dire. C'est très clair. À partir du chapitre 14 jusqu'au 16, si vous le lisez, là, vous allez voir vraiment ce que j'étais en train de dire à la dernière partie est en relation avec les deux autres et avec la création. Jean commence, hein, l'évangile. Comment il commence son évangile? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Là, il commence déjà à nous enseigner. Donc, chaque personne de la Trinité n'est pas simplement une manifestation, un aspect des autres. Donc, on ne peut pas dire que le Saint-Esprit est le tiers de la Trinité, ni le Fils est le tiers de la Trinité, non. OK? Mais possède toute divinité, chaque personne, les attributs complètes. Donc, le terme, pourquoi dire troisième personne? C'est-à-dire que c'est la dernière, quoi. C'est la moins importante. C'est vrai, hein, en théologie, on utilise toujours, hein, on est habitué à entendre, « Ah, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. » Mais cela, ça signifie pas que le Saint-Esprit est inférieur du Père ou du Fils, ou qu'il a été créé ou venu après, chronologiquement. Non, il n'y a aucune hiérarchie de nature, ok? Seulement une distinction de, en ce qui concerne les rôles, ok, les rôles. Et dans ce cours-là, on va voir vraiment le rôle du Saint-Esprit. Donc, les trois, Père, Fils, Saint-Esprit, sont co-égaux, sont co-éternels, et ils sont pleinement Dieu. Dans la mention du Saint-Esprit, dans les passages, on connaît pourquoi on dit la troisième personne de la Trinité, parce que on a étudié ce qui concerne Dieu, la Trinité, cette doctrine-là, des bases importantes, et on voit des passages trinitaires. On a vu un passage trinitaire tantôt, c'était quoi? Matthieu 28. Baptisez-les au nom du Père, du Fils. Et vous voyez l'ordre? Père, Fils, Saint-Esprit. Pourquoi il fait cet ordre-là, Matthieu? Père, Fils, Saint-Esprit. On voit dans Jean 14, 16 à 17 aussi. Dans Éphésiens 4 à 6 aussi. C'est à l'envers dans Éphésiens. Il parle premier du Saint-Esprit, après du Fils et après de Dieu. C'est une suite, une logique relationnelle. Si on peut résumer peut-être ça, pourquoi on parle du troisième, la troisième personne, donc en ayant toute la révélation de A à Z, okay, il y a des choses qui vont arriver encore ici, mais nous avons toute la révélation des yeux. Donc, on pourra voir que le Père, surtout dans le Nouveau Testament, le Père envoie le Fils qui accomplit le salut. Et l'Esprit applique et habite le croyant après le départ de Jésus. Donc, c'est pour ça que peut-être on voit cela, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, la troisième personne est donc liée à sa fonction dans la mission de Dieu, par l'ordre, pas par une ordre de priorité, c'est juste dans le plan de Dieu. C'est bon? Maintenant, on va voir en ce qui concerne la personnalité du Saint-Esprit. Je sais que vous connaissez, beaucoup connaissent, là, vous allez pouvoir me dire, mais c'est bon, un rappel. Vous savez, Pierre écrit aux chrétiens, il dit qu'il répète ces choses-là. Mais c'est bon répéter les choses parce qu'on oublie. On oublie souvent. Même l'apôtre Paul aussi, quand il écrit, c'est des choses qu'il a déjà enseignées. Quand il écrit aux Thessaloniciens, c'est des choses qu'il avait déjà enseignées. Mais il faut toujours être en train d'étudier la parole de Dieu. Donc, sa personnalité, le Saint-Esprit est une personne au même titre que le Père, on l'a dit déjà, il possède toutes les caractéristiques de la personnalité divine. C'est vrai ça? Donc, qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit selon ce que vous avez lu, le Nouveau Testament, donnez-moi une caractéristique que comme quoi le Saint-Esprit est une personne. Une caractéristique. Une personne, c'est-à-dire aussi, nous sommes, comme personne, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du Saint-Esprit par rapport à cette caractéristique-là? C'est une personne. Il conduit, il dirige, ok. Oh, il intercède, oui. Il aime, il est amour. On va voir quelques-uns, hein? Peut-être on ne verra pas tous, là. On va voir quelques-uns, là, mettons. Il pense. Ok, il a une pensée, vouloir. Romains 8, 26, c'est lui qui sonde. C'est lui qui sonde les cœurs, il dit. Connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède. Oh, voilà, quelqu'un qui a parlé d'intercède. Et en faveur des saints. Ok, il pense. Il sonde le cœur humain. On vient de le voir dans 1 Corinthiens 2, 10. Il dit, à nous, Dieu nous a été révélé par l'Esprit. Car l'Esprit, quoi? Sonde. Tout. Même les profondeurs de Dieu. Savez-vous que nous avons, nous comme croyants ici, je pense que nous sommes tous des croyants ici, et nous avons tous le Saint-Esprit de Dieu, cet Esprit-là qui sonde toutes les choses. Il interdit aussi. Si vous voulez voir plusieurs caractéristiques du Saint-Esprit, allez lire tous les actes des apôtres et vous allez voir comment c'est vraiment une personne qui agit, là, le Saint-Esprit. Et donc, il interdit. Vous rappelez, il dit, dans Acte 16, il dit, empêché par le Saint-Esprit, il dit, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de Mysie, il tentèrent d'aller en Béthanie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Wow! L'Esprit de Jésus. Je ne sais pas de quelle façon, peut-être ils ont entendu une voix, de quelle façon, ne le dit pas. Mais, par contre, on comprend bien que c'est l'Esprit qui interdit ça. Il aime. Josh, il parlait de ça. Il aime. Jésus, je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit. D'autres versions traduisent par l'amour qui vient de l'Esprit. OK? À combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Dans nos vies, des fois, ça c'est un mot qu'on n'aime pas, on veut oublier un peu. Et est-ce que le Saint-Esprit peut être attristé? Oui, mais c'est Dieu lui-même. Est-ce que Dieu, des fois, il est triste? Oui, mais il est Dieu. Comment il peut être triste? Dieu est la joie personnalisée, non? Il y a des sentiments, Dieu. Vous vous rappelez quand Jésus a pleuré devant Jérusalem, il disait comment je voulais... C'est ça, comme... Vous réunir, oui, c'est ça. Il y a des sentiments, donc, un peu attristés, le Saint-Esprit. Pour ça, c'est important de faire un rappel de ce que la Bible dit par rapport à la personne du Saint-Esprit. En sortant d'ici, rappelons-nous de ça, qu'on peut attrister le Saint-Esprit qui habite en nous, à cause de nos agissements. C'est vrai qu'on est libre en Christ, mais nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Laissons-le agir dans nos vies. Donc, Éphésiens 4, 30, connaissez, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Il ne faut pas l'attrister. Qu'est-ce qui fait aussi le Saint-Esprit? Il prie. Comment ça, il prie? Oui, il prie, mais c'est Dieu lui-même. C'est ça des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Vous rappelez, il était le Fils de Dieu quand il est venu sur terre, le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il allait loin, il priait, mais il priait son Père. Mais attends, là, mais Jésus est Dieu, il quoi? Il parlait tout seul, là? Non, c'est des choses que c'est vrai qu'on ne comprend pas, mais il priait son Père. Donc, dans 8, 26, Romains, il dit de même, aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Ça, c'est une belle promesse, hein? De notre faiblesse. Car nous savons. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Waouh! C'est une belle assurance, ça, de savoir des fois on prie pour quelque chose, mais nous on ne sait pas là. Mais on prie pour que même le Saint-Esprit intercède. Et lui, il prie pour nous. Il intercède pour nous. Voyez qu'il y a quand même un rôle d'intercession, mais c'est aussi le rôle de Jésus aussi, non? Il intercède, c'est notre avocat. Mais le Saint-Esprit aussi, un peu, il y a ce rôle-là. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même aussi. Il est Dieu. Il parle. Ah oui, le Saint-Esprit parle. Oui, il parle. Voici quelques personnes auxquelles l'Esprit s'est adressé. À Philippe, dans le désert, l'Esprit dit à Philippe, « Avance, rejoins ce char-là. » Vous vous rappelez de qui il parle? De l'Éthiopien, oui. C'est ça. Parlez le jour, là. Mais il dit, là, que l'Esprit dit à Philippe, « Comment, là, à savoir quel, comment Dieu a parlé, là, comment le Saint-Esprit a parlé, est-ce qu'il y a parlé? » Là, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il lui a dit de faire. Peut-être qu'il a entendu une voix. Paul, quand il est tombé, là, il a entendu la voix de Jésus? Oui, il a entendu. Il dit qu'il a trois fois, dans un acte, il donne son témoignage comme quoi il a entendu cette voix. Waouh! Il était à terre, là. Comme Ésaïe, quand il est devant Dieu. Il était à terre, puis il a entendu la voix. Il est tombé. Donc, il parle à Philippe, à Pierre, sur le toit d'une maison. Il dit, comme Pierre, réfléchissez sur la vision. L'Esprit lui dit, clairement, voici trois hommes qui te cherchent. L'Esprit lui dit, il parle. Aux anciens de l'église d'Antioche aussi, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul de Tarse. Vous vous rappelez pour la mission qu'il envoie? Oui, mais l'Esprit a parlé aux anciens. Aux églises d'Asie mineure, que celui qui a des oreilles, écoute, c'est que l'Esprit... C'est quoi ce livre-là dans l'Apocalypse? Et cela revient plusieurs fois, même sept fois. Il envoie le message aux sept églises, donc sept fois. Donc le Saint-Esprit, il parle. Donc nous avons dans le Nouveau Testament 261 passages environ qui font référence au Saint-Esprit. Il est mentionné 56 fois dans les Évangiles, et 57 fois dans les livres des Actes. 112 fois dans les lettres de Paul et 36 fois dans le reste du Nouveau Testament. C'est important connaître ou étudier en ce qui concerne le Saint-Esprit, bien sûr. Mais on a vu tous ces aspects-là tirés du Nouveau Testament, surtout où est-ce qu'on a vu qu'il parle, tout ce que le Saint-Esprit fait, mais pourquoi il ne le fait pas dans l'Ancien Testament, un peu comme il le faisait dans... Parce qu'il c'était le même esprit. Oui, c'était le même esprit, on a vu. Oui, il parle. Regardez dans Ésaïe 63:10, il dit, mais ils se sont révoltés, ils ont attristé son esprit saint. Waouh, c'est un peu la même chose que Paul en parle dans Ésaïe 63:10. Il dit, mais ils se sont révoltés, ils ont attristé son esprit saint. Et ça, c'est dans Ésaïe. C'est qui a attristé l'esprit saint? C'est qui? Dans Ésaïe? C'est le peuple de Dieu, c'est Israël qui a attristé son esprit. Même dans le même chapitre, plus loin, il dit, « Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les amène au repos. » Vous voyez, l'Esprit de l'Éternel les amène et dirige. « C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour faire ton nom glorieux. » Et pas juste dans Ésaïe, dans Néhémie, on lit aussi, « Tu leur as donné de ton bon esprit pour les rendre intelligents. » C'est des choses qu'on va voir, ok, dans cette étude-là. Et même, c'est ce que je suis en train de lire, là, c'est dans Néhémie 9:20, quand il parle au sujet du peuple des dieux. On va voir quelques passages par rapport à sa divinité, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Et la parole nous le dit, il est omniprésent. Qu'est-ce qu'il dit le psaume 139? Où j'irai loin de toi, Dieu? Non, il dit, où j'irai loin de ton esprit? Et où j'irai-je loin de ta face? Hé, de ta face, il parle vraiment de Dieu, là. Donc, vous voyez, là, un peu, c'est la même chose. La face de Dieu, c'est la présence de Dieu, et la présence de l'esprit. L'esprit et Dieu, c'est le même. C'est Dieu lui-même. Même dans l'Ancien Testament, on voit ce passage-là. Il est omniscient aussi. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Dans ce passage, vous le connaissez, car l'Esprit sonde tout, on l'a déjà vu. Mais dans le 139, il dit que Il parle au début de l'esprit, mais il dit que nous n'avons même pas mentionné une parole que tu la connais déjà. Donc, il est omniscient. Il est tout-puissant. C'est ça, omnipotent. On le voit quand? Dans la création. Il était là, quand Dieu a tout créé. Il était avec Dieu. Jean aussi nous dit ça. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Et non seulement, on fait le lien, là. L'Esprit est là. Le Fils est là aussi. OK? Et Jean nous dit qu'il a tout créé aussi, le Fils. Et Dieu là. Dieu est là aussi. Quelques noms qui sont utilisés dans la parole de Dieu en ce qui concerne l'Esprit. On utilise ce mot l'Esprit, tout court. On a dit déjà que ça signifie souffle, mais en latin, spiritus, c'est pour ça peut-être qu'en français, on a ce mot-là, esprit. Et en espagnol, esprit, espiritu. Ah ouais, ça ressemble beaucoup au latin, là. Souffle, vent. Dans Genèse, on le voit, dans Matthieu. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit. Là, il utilise juste le mot en majuscule, l'Esprit. Il ne dit pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit, en parlant du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est utilisé dans « Ô de l'Éternel ». Ce nom met l'accent sur sa dignité et sur sa puissance aussi. « L'Esprit de l'Éternel s'empara de lui et jugea Israël et sortit à la guerre. Et l'Éternel livra Églon, roi de Moab, entre ses mains. » De qui il est en train de parler, pour ceux qui connaissent bien, là? Lui, il le sait. C'est quel juge, ça, Jean-Daniel? Othniel, c'est ça? Othniel, c'est ça. L'Esprit de l'Éternel, on lit, là, en parlant du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel, dit Isaïe aussi, reposera sur lui quand il parle de son serviteur. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus même était utilisé ou de Christ, ou de son Fils. Dans Actes 16, dans Romains aussi, dans Philippiens, OK? Il parle vraiment de l'Esprit de Christ, de Jésus. Le mot que vous connaissez très bien, le Consolateur. Où on voit ce mot-là? Comme je disais tantôt, du chapitre 14 jusqu'au 16, Jean, l'Évangile selon Jean, parle de ce Consolateur, intercesseur, paraclète qu'on connaît. Okay, le Consolateur. On va voir quelques aspects quand on va étudier tout ce qui concerne le rôle de l'Esprit dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, ou Esprit de sainteté aussi, est nommé dans les Écritures. Il y a beaucoup de passages qu'on peut voir. Là, ces noms soulignent son caractère essentiel, la sainteté. On a lu tantôt dans Ésaïe 51, dans les Psaumes aussi, 51 et 13 aussi. Dans Luc, dans Acte, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. L'Esprit de vérité, dans Jean 14, dans 15 aussi. L'Esprit de grâce, administre la grâce de Dieu, applique la grâce de Dieu dans Hébreu. On peut lire ça dans Hébreu aussi. L'Esprit de grâce. L'Esprit de gloire, glorieux, communique la gloire aussi dans 1 Pierre 4, 4. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. C'est ce qu'on voit dans les Écritures par rapport au nom du Saint-Esprit. Peut-être que vous avez déjà lu d'autres passages où là, il faut faire référence au nom de l'Esprit. Donc, c'est important d'étudier ce qui concerne tout, ce qui concerne le Saint-Esprit, son rôle aussi. Mais des fois, on utilise plusieurs langages, des fois, qui ne sont pas vraiment bibliques. Même dans des chants, là, on utilise des noms qui ne sont pas appropriés au Saint-Esprit. Des fois, quand on voit que le Saint-Esprit est Dieu, et Jésus est Dieu, le Père est Dieu lui-même, des fois, on se pose la question, est-ce que on peut adorer le Saint-Esprit? C'est des questions des fois qu'on va voir peut-être dans les... Est-ce que la Bible nous... Il est Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire, Saint-Esprit, on t'adore? Bibliquement parlant, on ne le voit pas dans les Écritures. Okay? Comme quoi il faut adorer le Saint-Esprit. il faut adorer Dieu plutôt. Chaque, vous voyez, chaque personne de la Trinité a son rôle, a des caractéristiques propres aussi, mais ce sont les mêmes, ce sont les mêmes attributs. C'est pas mauvais peut-être de dire bon, j'adore Dieu, mais est-ce que bibliquement parlant, est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Mais la Bible nous encourage plutôt d'adorer Dieu. Même Jésus a été adoré. Est-ce que la Bible nous dit d'adorer Jésus? C'est pas mauvais, mais on le voit plus. Mais il a été adoré, Jésus-Christ. Quand? Vous vous rappelez? Thomas. Il y a plusieurs qui se sont prosternés devant lui et l'ont adoré. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même. C'est pour démontrer dans ces écrits-là la divinité de Jésus. Mais même Jésus, il dit qu'on doit adorer Dieu. Même Jésus, il dit qu'on doit prier son Père. Hein? Il ne dit pas prier à moi. Prier son Père. Est-ce que c'est mauvais prier? Non. Je ne veux pas dire non plus que c'est interdit. Quand vous dites, Seigneur Jésus, je t'ai prié, que ce n'est pas interdit, là. Mais dans les prières, il y a, je crois que la Bible nous quand on dit, il faut prier au nom de Jésus, c'est vrai, ça. C'est vrai. Mais ça veut dire que si quelqu'un prie, il dit, Seigneur, je te prie pour mon frère qui est malade, puis aide-le. Amen. Hey, toi là, t'as pas dit au nom du Seigneur Jésus. Bon, ta prière là, n'est pas bonne. Non, il faut pas aller dans ces extrêmes-là. Parce que les trois sont Dieu. Mais quand on voit c'est pour ça que c'est bon, quand on voit les Écritures, on voit vraiment comment, de quelle façon, même quand Jésus a dit, je veux vous montrer à prier. C'est comme ça que vous devez prier. C'est un exemple, c'est pas pour répéter les mots, mais c'est un exemple. Et la prière est concentrée plutôt à son Père, là. Il dit, priez votre Père. Il dit, priez votre Père qui est dans les cieux. Et c'est important. C'est pour ça que tout ce que nous avons comme conviction, c'est tirer la parole. C'est pas mes pensées, là. C'est vraiment la parole de Dieu, là. Comment Dieu va nous rappeler, dit, la parole de Dieu, on a dit que le Saint-Esprit, il sonde tout, le cœur, OK, de l'homme aussi. Mais comment nous allons pouvoir nous rappeler des choses si nous ne l'avons pas lu? Comprenez? Le Saint-Esprit va faire ce travail-là. OK? Mais si on ne lit pas, si on n'étudie pas, le Saint-Esprit, il pourrait, le Saint-Esprit est tout puissant, il pourrait nous donner des mots, mais à ce qui concerne sa parole, pour que nous puissions nous rappeler, il faut la lire. Je garde tes commandements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est pour ça que c'est important, l'étude de la parole de Dieu, et la lire davantage à tous les jours. Pas évident, je sais, des fois, mais à tous les jours. Amen. Donc, puisque le Saint-Esprit est une personne, une des personnes de la Trinité, il est de la plus haute importance de quoi? D'étudier spécifiquement sa personne et son œuvre. OK? Juste quelques réflexions. Les nombreux passages qui font référence, c'est-à-dire au Saint-Esprit, dans les Écritures, nous montrent que l'enseignement biblique concerne le Saint-Esprit est à la fois précis et complet. C'est la vérité, en plus, je pourrais ajouter, en ce qui concerne l'Esprit. C'est pour ça que nous allons étudier tout cela. Oui, c'est vrai que c'est un long titre, mais nous allons étudier tout cela. Tous ces enseignements sont tirés de ce que la parole de Dieu dit. L'Esprit de Dieu est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui nous guide. Donc, le sujet du Saint-Esprit est d'une importance extrême. Nous avons tous besoin de sa présence, de sa puissance, et sans lui, il nous serait absolument impossible de vivre la vie chrétienne et de servir Dieu. Sans lui, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas l'Esprit, mais des fois, on peut vivre comme si on n'a pas le Saint-Esprit en nous. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Donc, le Seigneur Jésus, il dit, « Parce que, séparé de moi, vous pouvez rien faire. » Il était en train de parler à ses disciples. « Séparé de moi. » Ses disciples qui croyaient en lui. Mais séparé de moi, on ne pouvait rien faire. Est-ce qu'on peut ignorer des fois le Saint-Esprit dans nos vies? Pensez-vous? On peut faire ça des fois? Oui, hein? On peut ignorer le Saint-Esprit. Il est une personne. C'est Dieu lui-même, frères et sœurs, qui habite en nous. C'est son esprit, l'esprit de Dieu qui habite en nous. Okay? Donc, prions pour que Dieu nous parle, Dieu nous transforme. C'est ça le but vraiment, d'être transformé à la ressemblance de qui? De Jésus. Et c'est le Saint-Esprit, c'est un des rôles qu'on va voir aussi dans cette étude. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, dans le cœur du chrétien. OK? Donc, demandons au Seigneur de nous guider dans cette étude. Dans cette étude de l'Esprit, mais qu'il nous guide par son même Esprit. OK? Dont nous sommes en train de parler. C'est des choses qui nous dépassent. Hein? Vous avez l'Esprit de Dieu. OK? Vous êtes chrétienne, vous croyez en Jésus comme votre Sauveur, vous avez l'Esprit de Dieu. Ma sœur, vous avez l'Esprit de Dieu. Moi, je crois, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Mais attendez, là, il y a combien d'esprits, là? Toi, moi. Des fois, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, je dis, mais c'est dur à saisir. C'est vrai, non? C'est dur à saisir. OK, mais ça veut dire que toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi, ma sœur aussi, donc il y a combien d'esprits là, en fait? Il y a un seul esprit. Mais l'Esprit de Dieu habite en moi, habite en vous. C'est le même esprit. Pas qu'il y a trois esprits. OK? Mais c'est une vérité, là. Est-ce que ça nous dépasse? Oui, on ne peut pas comprendre, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité. La Bible nous le dit. Donc, prions pour qu'il nous guide dans cette étude-là. Et si nous nous en tenons strictement à ce qui est écrit, OK, ici, là, et tout ce qui est écrit, nous serons vraiment préservés des dangers. Pourquoi il y a tant de sectes qui ont apparu, ou des choses qui se disent même sur Internet et tout ça? Parce qu'ils vont chercher vraiment leur façon de penser et pas ce que la Bible dit par rapport même à l'Esprit de Dieu. Donc, dans ce cours-là, mes frères et sœurs, on va laisser parler la Bible elle-même, par elle-même. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on va étudier. Si je vous encourage peut-être à lire les livres des Actes. Le livre des Actes, on peut le lire dans quelques heures, je crois. Qui peut me dire à peu près que ça prend combien de temps pour lire le livre des Actes au complet? C'est 24 chapitres. Une heure? Plus que ça. Oui, à peu près 2 heures, tranquillement 2 heures. Ça m'est déjà arrivé que... je me rappelle quand on avait l'école biblique, et on faisait le parcours de chaque livre de la Bible, OK? On étudiait chaque livre, on faisait un survol. Mais pour l'étudier, pour faire le survol, il fallait le lire tout au complet. Et je me rappelle que les élèves, des fois, là, ils étaient en train de finir la lecture. Parce que pour chaque cours, il fallait qu'on ait lu tout. Mais c'est sûr que pas le psaume, là. Le psaume, on l'a fait dans 2 cours, peut-être, ou 3 cours même. Mais des fois, là, il aurait fallu. Même moi, je l'avais déjà lu, mais il fallait que je me dépêche pour le lire. Et c'est vrai, mes frères et sœurs, nous sortons vraiment édifiés quand on... C'est bon quand on lit un livre d'entrée. C'est très bon, OK? Parce qu'on voit l'ensemble de tout le livre. Mais je ne vous décourage pas de suivre une lecture quotidienne, hein, de chaque chapitre. C'est correct, là, je ne suis pas en train de vous décourager à faire ça. Mais c'est bon quand on lit, mettons, une lettre au complet, c'est bon la lire au complet. On l'a déjà fait, on l'a déjà lu, l'Apocalypse ici, dans le culte, vous vous rappelez? C'était un peu long, là, mais c'était très édifiant de lire tout le livre d'Apocalypse. Donc, il faut nous tenir strictement à ce que la parole de Dieu est dit. Et si vous voyez que je dis quelque chose, que on va aller chercher dans la parole de Dieu, OK? Pour voir si c'est vraiment ce que je suis même en train de dire. Donc, laissons la Bible parler par elle-même. Si nous écoutons la parole, elle sera nous éclairer. C'est un début. Le Saint-Esprit, il corrige et nous faire grandir. Donc, une chose que je veux dire, c'est que je ne veux pas imposer mes propres idées. Des fois, on a des... Oui, il y a des sujets un peu... Des fois, il y a des différentes positions, OK? Quand il concerne surtout les choses à venir, l'eschatologie, c'est vrai, OK? Mais... Essayons de rester le plus biblique possible. Le seul vrai maître qui conduit à toute vérité, c'est Dieu lui-même, c'est son Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses en ce qui concerne ce cours. La semaine prochaine, on va vraiment commencer avec le rôle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. C'est sûr que ça va être plus court hein, dans l'Ancien Testament. On va rester beaucoup plus dans le Nouveau Testament parce que c'est là qu'on voit le rôle du Saint-Esprit au complet. C'est là que la Bible nous en parle plus, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas dans l'Ancien Testament. Donc on va voir toutes ces choses-là. On va voir quelque chose qui fait le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est la régénération, okay? La sanctification, la transformation. C'est ça? On va parler de ça aussi. Mais est-ce qu'il le fait dans l'Ancien Testament? Est-ce que les gens qui croyaient en Dieu et qui avaient l'Esprit étaient régénérés comme dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est oui ou non? Est-ce que c'est la même chose? Mais oui, c'est la même chose. Donc, c'est le même esprit. Oui, mais ce n'est pas exactement la même chose. OK? Mais on ne peut pas parler d'une régénération du croyant dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on va voir, mais on va le voir en étudiant, en regardant le texte biblique. Et vous allez en tirer vos propres conclusions aussi. Donc, mais c'est vrai que le Saint-Esprit agit. Il y a une chose qui fait le Saint-Esprit, par exemple, dans toutes les Écritures, okay, au complet. C'est vrai qu'il y a un rôle dans l'Ancien, dans le Nouveau. Qu'est-ce qu'il fait dans toutes les Écritures, le Saint-Esprit? Quel est le rôle que vous voyez qui le fait dans toute l'histoire de la Bible et que ça n'a pas changé? Bien, ça n'a pas changé, ça a changé, mais Tamara, puis après, c'est mon frère Zacharie. Vers connaître Dieu, oui. Oui, mon frère Zacharie. Ça, c'est un bon point. Il me glorifiera. Okay? C'est un rôle. C'est un des rôles du Saint-Esprit. Il me glorifiera. C'est beaucoup plus clair dans le Nouveau Testament, hein? Parce que c'est Jean qui en parle. Okay? Il nous fait connaître aussi Dieu davantage. Okay? Il y a une chose qu'il a fait tout au long de l'histoire. Oui, il sanctifie, mais la sanctification, c'est un terme qu'on voit plutôt dans le Nouveau Testament, dans la vie du chrétien. OK? Oui, ma sœur. Il nous convainc du péché aussi dans la Nouvelle Alliance, c'est ça. Okay? Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne parle pas dans l'Ancien Testament, mais il y a des différentes façons d'agir dans l'Ancien Testament. Mais une chose là, que je voulais juste vous dire, c'est qu'il a conduit chaque auteur de la Bible pour écrire la parole de Dieu. Et cela n'a pas changé ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau. C'est vrai? Donc, il a toujours conduit à chaque personne, différentes personnes, pour écrire ce que nous avons ici maintenant de précieux. Et c'est le Saint-Esprit qui a dirigé, le Saint-Esprit de Dieu qui a dirigé. Qui parle de ça? C'est Pierre. Pierre a dit qu'il a inspiré, son Saint-Esprit vraiment, qui a dirigé ces gens à écrire. Puis, ce que Pierre ne savait pas, c'est que Dieu était en train de faire la même chose avec lui. Parce qu'il est en train d'écrire, pourtant, ce qu'il a écrit est devenu la partie de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit agit aussi non seulement dans l'Ancien Testament, si on va aller peu à peu, il agit aussi dans la vie de Jésus, ok? Avant la Pentecôte. On va voir ça aussi, le rôle du Saint-Esprit avant la Pentecôte. À la Pentecôte même et après la Pentecôte. C'est-à-dire, la Pentecôte, on connaît, on dit, on fait référence au jour où le Saint-Esprit est descendu. Pour la première fois, il a inauguré, initié l'Église. C'est bon? Quelqu'un qui peut prier?